Nous sommes au lundi 9 octobre 2023. Il est 11h passé de quelques instants sur la nouvelle génération. Et vous comprenez que c'est l'heure de l'émission Club de la Presse. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue à l'émission. Club de la Presse, ce lundi, c'est avec Michel Kokou-Vitokbe Tomega à la technique, Gérald Akoucha à la mise en ligne et je suis Pascal Lossou au micro. Vous pouvez nous suivre également partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie à Dapan. L'émission Club de la Presse se déroule également alors sur nos plateformes, nos différentes plateformes numériques et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. L'émission Club de la Presse de ce matin, c'est bien évidemment l'analyse, le décryptage, le commentaire de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec des confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités, bien évidemment. Alors confrères journalistes en studio avec moi, Uriel Nyang. Uriel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices, surtout les auditeurs de Canal FM. Bonjour à notre cadet Didier, au grand frère président.
Alors Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va Pascal.
Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à mes aînés ici en studio.
J'espère que Togo Breaking News se porte bien.
Dieu fait grâce, pour l'essentiel, on rend grâce, parce qu'il n'y a pas, le reste, on a la vie, c'est bon.
C'est l'essentiel, on a la vie, et je pense qu'avec cette vie, nous ferons des exploits, c'est très important. Alors, Uriel, on discutait même d'ailleurs d'un sujet avant, hors micro tout de suite, je n'ai pas vu votre journal en kiosque alors que ce matin, et vous m'avez donné une raison quand même qui m'a interpellé, et c'est sur ce sujet-là que nous allons même d'ailleurs débuter cette émission Club de la Presse. Et quelles sont les raisons pour lesquelles votre journal n'est pas en kiosque ce matin?
Non, le journal n'est pas sorti, c'est un exemple, c'est un cas parmi tant d'autres. Vous auriez dû remarquer que depuis quelques jours, la compagnie énergie électrique du Togo CT a choisi de nous sevrer, de nous priver du courant électrique, ce qui a causé beaucoup de dommages à notre niveau. Nous n'avons même pas pu travailler, même si on avait montré le journal. L'imprimeur nous avait signifié que lui aussi, il était dans la situation. Et ce n'est que le cas d'un organe de presse. Il y en a beaucoup de cas. Mais il faut dire dans l'ensemble que, quels que soient les communiqués privés de leur contenu que nous lisons sur les réseaux sociaux, je pense quand même que la CTA a choisi d'expérimenter le mal. Ça, c'est l'expérience du mal, mais elle a malheureusement choisi d'expérimenter le mal sur les humains. Figurez-vous que cette compagnie soit incapable de rétablir une panne depuis, je pense, samedi, et qu'elle n'ait pas pris des dispositions pour continuer le service le week-end. Moi, j'ai un policier à côté de moi qui me disait, mais lorsqu'il y avait attroupement dans l'établissement des cartes national d'identité, vous vous souvenez,
tout à fait.
Une mesure était prise et la police, les services des cartes de la police avaient bossé du matin jusqu'à la nuit, de lundi à samedi pour résoudre le problème. Aujourd'hui, vous avez une panne, et je ne sais pas comment ils appellent ça, informatique ou dû à quoi, et incapable de résoudre le problème dans l'immédiat. Ce qu'il fallait faire tout simplement, c'était de proroger le service samedi et dimanche pour qu'on ait le courant électrique. Nous ne nous sommes pas imposé les cache-pas. C'est la compagnie même qui nous a imposé ce matériel d'utilisation. Et nous avons accepté. Aujourd'hui que vous avez panne, l'alternative était là. C'était de nous fournir le courant. On pouvait aller acheter nos crédits de consommation dans les agences CT. Mais aujourd'hui, dire que les gens passent samedi, dimanche, dans l'obscurité, c'est vrai de tout. Et lundi matin, on sort des communiqués pour nous dire que la situation est revenue à la normale. Moi, je dis, graduellement, la CT a manqué du respect aux Togolais. Elle a manqué du respect à la primature, elle a manqué du respect à l'Assemblée nationale, elle a manqué du respect à la présidence. Sincèrement, c'est pas du tout bien. Cette compagnie, elle n'existe pas qu'aujourd'hui. Elle n'existe pas qu'aujourd'hui. Moi, je ne serai même pas en mesure de partager ces communiqués.
Mais c'est
de n'importe quoi, c'est pas bien.
Dans un pays comme
le nôtre, où on est incapable de rétablir la consommation de l'énergie et on se contente des simples communiqués sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit que la suite a manqué du respect à tous les peuples togolais. Et ça, il va falloir vraiment que le gouvernement exige de cette société, si le gouvernement doit décider de garder tous les responsables de cette société, qu'il exige des excuses publiques encore. Sinon, ce qu'on a lu dans le communiqué, pour moi, ça ne signifie rien.
Jacques, alors, c'est vrai que beaucoup de citoyens comme Uriel ont passé le week-end en obscurité. Finalement, quand on prend aussi la cause alors de ce problème, on comprend tout simplement que c'est une cause technique ou une panne technique. Et bien évidemment, la panne technique, ça peut arriver quand même à toute société.
D'abord, présenter la compassion à tous nos compatriotes qui ont vécu ce calvaire et reconnaître au moins à la société que la société a toujours l'amabilité de toujours parler à ses abonnés. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire que quand la panne est survenue, vous avez vu qu'au moins la CET a diffusé les communiqués et sur les canaux, par exemple, sur les chaînes de radio et sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des compatriotes qui a un problème. Donc, je crois que ça, déjà, il faut remercier la CET d'avoir quand même considéré population abonnée que nous sommes. Parce qu'ils pouvaient se taire et on serait dans le bleu. C'est là qu'on pourrait quand même se poser des questions. Vous l'avez bien si souligné, effectivement, ça doit être, c'est un problème technique. Et je ne pense pas qu'une société qui est là pour servir, par exemple, une population, puisse prendre devers elle pour créer des problèmes à des abonnés. Je crois que c'est un problème qui a surgi. Et ils ont une fois encore eu l'amabilité de publier encore notre communiqué pour dire... Finalement, la panne que nous avons eue, nous avons finalement réglé le problème. Donc, je crois que c'est vrai. Il y a des choses qui arrivent que, en tant qu'être humain, nous ne pourrons pas effectivement maîtriser, surtout ce qui concerne les choses techniques. Vous-même à la maison, vous pouvez avoir un appareil qui répond bien. À un moment donné, l'appareil ne répond plus. Mais ce qu'il faut quand même peut-être souligner au niveau de la CET, c'est de demander effectivement à l'État de pouvoir venir en aide à cette société. Il faut reconnaître que la société a des problèmes. Quand vous voyez un peu comment les agents se battent, les responsables de la société se battent pour que nos compatriotes puissent avoir de l'électricité, il faut quand même reconnaître qu'il y a un problème. Donc je crois que c'est vrai que les compatriotes ont traversé des moments un peu difficiles par rapport à cette situation parce que vivre sans électricité, nous savons ce que c'est. Vous voyez donc, mais je crois que comme ils ont eu quand même l'amabilité de nous prévenir, l'amabilité également de nous informer que finalement, la panne a été rétablie. Donc, je crois qu'il faut quand même y trouver une situation atteignante pour reconnaître que et c'est vrai qu'il y a eu un problème. C'est vrai également qu'ils ont communiqué. C'est vrai également que les populations subissent même des dommages.
Didier, finalement, quand on prend ces pannes techniques, la société pourrait aussi anticiper sur ces pannes ou ces problèmes.
Je crois fondamentalement que, bon, nous connaissons la situation, nous connaissons tous la situation de la CET. Et la CET ne se porte pas mieux. C'est une société constamment en difficulté sur beaucoup d'années. Et c'est une société également qui n'a pas su amorcer sa transformation et son adaptation à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup de situations là-bas qu'on peut arranger et améliorer pour permettre à la CET de véritablement s'adapter à son époque. On parle notamment de cet outil de cash power, par exemple. C'est toujours, à mon avis, en phase, on peut dire, post-expérimentale, puisque ce n'est pas encore généralisé. Il y a encore d'autres compteurs, d'autres outils de la CET qui ne sont pas de cette époque et qui causent également d'énormes problèmes un peu partout sur le territoire. Mais quand on revient fondamentalement à ce qui s'est passé durant le week-end, oui, je comprends la situation, je comprends on va dire, le coup de gueule de Uriel.
Et il faut vivre cela avant de comprendre.
Naturellement, c'est partagé. qui a vécu deux jours dans l'obscurité, empêché de travailler, ses activités sont empêchées. Oui, il faut véritablement comprendre son état d'âme et je partage parfaitement.
Tout à fait.
Mais ce qu'on peut, comme Jacques l'a dit, ce qu'on peut trouver un peu comme situation atténuante pour la CET, c'est juste que c'est une panne informatique. Puisque c'est informatique, c'est pas prévu, c'est pas, donc du coup, je pense que pour résoudre des pannes de ce genre, on fait appel à des techniciens qui viennent d'abord pour examiner le réseau informatique. Le temps de trouver la panne, le temps de remettre les choses en l'état, ça va prendre beaucoup d'heures, beaucoup de moments, et je pense que ce qui est arrivé, mais comme Uriel l'a dit, la CET a juste manqué de trouver un autre mécanisme qui permettait aux gens de pouvoir avoir l'électricité.
S'acheter du crédit dans les agences.
Oui, je pense même que le problème était également au niveau de ces guichets.
Non, il n'y avait pas de problème au
niveau des guichets. Non, si vous lisez bien le premier communiqué de la CET que j'ai lu, disait également que la difficulté, il était également impossible d'acheter les crédits prépayés à ces guichets. La CET avait bien précisé ça. Donc, si c'est impossible d'acheter chez Timoney, Move et les autres, est impossible d'acheter à son guichet, ça veut dire que c'est un problème général.
Le communiqué est différent.
Avec la base informatique.
Oui, puisque le communiqué que j'ai ici parle plutôt alors de la direction générale de la compagnie énergie électrique, informe son aimable clientèle que la panne survenue au niveau de son système informatique le 7 octobre 2023 et ayant entraîné des difficultés d'achat de crédit d'électricité prépayé a été résolue.
Ça, c'est le récent communiqué.
C'est général.
Le communiqué n'a pas mentionné cela.
Oui, mais c'est plutôt pour les téléphonies mobiles.
Même au guichet de la CET,
c'est bien par l'achat Flouze et Timoney qui n'ont pas fonctionné.
D'accord. À ce moment-là, je sais comme je le dis, et ça ne dédouane rien. La CET aurait pu juste trouver un mécanisme pour permettre à ses clients concernés avoir, je ne sais pas, c'est une carte, non?
D'avoir les cartes. Nous achetons ces crédits dans les agences de la CET. Donc il fallait juste continuer le service.
C'est ce que je dis. J'apporte juste de l'eau à ton moulin. La CET a peut-être manqué, peut-être, comme ce n'était pas prévu, ils n'ont pas eu le temps d'informer les agents et les agences de pouvoir continuer le service. C'est peut-être ce qui a manqué. Donc du coup, maintenant que c'est résolu, on va s'en tenir à ça. Mais pour les prochaines fois, on ne souhaite même pas qu'il y ait une prochaine fois, mais où il y a des prochaines fois, que la CET prenne la mesure de prolonger le service au niveau de ces agences pour que les clients concernés, s'ils peuvent aller trouver crédit là au niveau des agences, puissent l'avoir, afin que le courant continue d'être chez eux, pour que des gens n'aient pas à vivre tout un week-end dans le noir.
Et puis, parlant de l'outil Power, Didier a bien souligné que cet outil n'est qu'à sa phase expérimentale. Je me demande durant combien d'années on va expérimenter l'outil Cash Power. Et puis, ce qu'il faut savoir, cet outil tombe toujours en panne. Les Cash Power, c'est des milliers en remplacement par an. C'est un outil qu'on remplace. Par an, c'est des milliers de Cash Power. Alors que le compteur mécanique est toujours en usage. On installe le nouveau, on utilise les anciens. Et qu'est-ce qui ne va pas au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne faut pas qu'on essaie d'arranger. C'est un drame. C'est quelque chose qui a impacté négativement les populations, les usagers que nous sommes. Aujourd'hui, on ne va pas essayer de donner une autre couleur à la chose. La CET n'a qu'à revoir carrément la chose. Pourquoi qu'on ne subisse plus de telles catastrophes, laisser les gens en période d'insécurité, dans l'obscurité, et tout ce qui va. Et que je pense que ce n'est pas du tout bien. Sinon, nous disons la chose d'une façon objective. Je ne connais ni le DG, ni ses chefs de service, ni les autres qui sont là-bas.
Mais nous
cherchons juste la qualité. Parce qu'il y a des gens qui ont fréquenté dans le domaine, qui attendent pour servir le pays. Si les gens sont incapables de servir là-bas, incapable de rétablir la panne. Et c'est lundi matin, c'était le week-end, samedi, dimanche.
Tout à
fait. Et c'est lundi matin, très tôt, on nous annonce le rétablissement de la panne, si soyons objectifs.
D'accord, en fait, je suis tombé avec. Je salue, je profite de l'occasion pour saluer Sas Gaou qui nous suit religieusement depuis chez lui l'émission et qui vient de me balancer le premier communiqué de la CET.
Voilà.
Donc je pense que ce que je disais était plutôt la vérité. Il dit. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimante clientèle que depuis ce matin, donc on parle de samedi, les bonnets connaissent des difficultés pour effectuer les achats de crédit d'électricité prépayés à ses guichets de caisse et auprès de ses partenaires de téléphonie mobile utilisant les services de paiement électronique T-Money et Flouze. Donc, le problème était avec la base informatique de la CET et donc, même au niveau des guichets, c'était impossible d'acheter
les guichets servaient. Les guichets servaient au moment où le communiqué était sorti. S'il vous plaît, il faut.
Non, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec. Le problème est, il faut que personne n'est ici pour peut-être essayer de protéger quelqu'un ou bien de prendre la défense de quelqu'un. Mais il faut reconnaître que c'est une panne technique. Moi, je le réitère toujours. Au moins, la CET a eu l'amabilité de communiquer pour dire, avertir à ses abonnés que, attention, il y a un problème. Donc, excusez-nous, dans quelques heures, dans quelques jours, nous allons rétablir effectivement la panne. Vous comprenez. La CET pouvait, par exemple, se taire et après sortir un communiqué pour dire non, c'est parce que nous avons eu tel problème hier que vous n'avez pas pu faire ci et ça. Il faut reconnaître également que, comme Uriel l'a dit, peut-être qu'il n'était pas seul dans ce cas. Peut-être beaucoup également ont dû ne pas travailler pendant ces jours-là. C'est vrai. Mais, moi je le dis toujours, je ne pense pas que une société puisse avoir effectivement ce culot de priver ses abonnés d'électricité s'il n'y a pas effectivement un problème. Il y a un problème. Donc ce que, par exemple, Uriel dit tout à l'heure, il est vrai, c'est-à-dire que c'est des pistes que la société peut, par exemple, explorer. S'il y a, par exemple, demain, ce genre de panne, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les abonnés ne puissent pas rester effectivement dans l'obscurité? Mais à l'état actuel des choses, il faut reconnaître que c'est parce qu'il y a eu un problème. C'est parce qu'il y a eu un problème que finalement, nous n'avons pas eu d'électricité. Je comprends Uriel parce qu'il devait paraître ce matin. Il n'a pas paru, ça lui fait mal. Mais je crois qu'il faut reconnaître que ce qui est bien a été fait au niveau de la société, c'est parce que la société nous a avertis. La société nous a avertis et puis tenez-vous bien, depuis un certain moment, lorsque par exemple doit survenir une panne d'électricité ou doit avoir des coupures, la société prend toujours le temps de communiquer, d'avertir effectivement ses abonnés, de dire attention, dans ce quartier, dans quelques semaines, bien dans quelques jours, dans quelques heures, on va couper l'électricité. Donc, pour responsabilité. Et là, je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Non, je crois que c'est vrai que nous sommes des êtres humains, hein. Ça fait mal parce que si vous avez, par exemple, un programme avec l'électricité qu'on coupe et vous n'arrivez pas peut-être à faire ce que vous voulez, ça fait mal. Mais souffrir également que c'est des êtres humains qui travaillent là-bas. À un moment donné, il y a des choses quand même qui peuvent également arriver et souvenir également.
Nous allons quitter ce sujet alors de la CET. Et nous allons sur nos routes pour parler d'un sujet, un sujet que Liberté évoque ce matin à sa une, infrastructure et travaux approximatifs, rue de la Rac, Gbadago, Agouet, Oglekopé, Adetikopé, Rond-Point, port dans un état inquiétant. Alors, c'est vrai, on se souvient même d'ailleurs de ce trou qui a été retrouvé même d'ailleurs pas loin du rond-point port, sous le pont du rond-point port la semaine dernière. Ça a fait des débats dans nos émissions. Alors, Uriel, quand on prend ces travaux, est-ce que, comme le dit Liberté, ce sont des travaux qui sont faits d'une manière approximative?
Non, vous savez, c'est... Je ne suis pas spécialiste des travaux publics, encore moins sur les travaux liés à la construction des routes. Puis, si nous prenons l'exemple du trou dont vous parlez au niveau du rond-point Sintogo, à côté du port, je pense que c'est des trucs qui doivent être expliqués par les spécialistes en travaux publics. Si vous n'êtes pas spécialiste en travaux publics, journaliste spécialiste en travaux publics, vous ne pourriez pas l'expliquer. De deux, vous voyez les tronçons cités par, énumérés par nos confrères de Liberté. C'est un journalisme de l'homme. Ça se résume à ceux qui travaillent sur les faits qui se produisent à Lomé. Et on a des tronçons, on a des routes dans des états plus nécessités que ça à l'intérieur du pays. C'est parce que nous avons la chance d'emprunter plus des routes bitumées à l'intérieur de la capitale que des routes en terre que nous essayons d'énumérer ces tronçons-là. Peut-être que c'est deux ou trois nids de poules où vous rencontrez quelque part. Le pneu de votre voiture tape un trou, bon, voilà, c'est fini. Et votre stylo passe là-dessus. Sinon, la situation, dans la réalité, la situation des routes, que ce soit la construction des routes ou l'entretien des routes, je pense qu'il revient au service d'en expliquer. Maintenant, l'entretien des routes, c'est sur des programmations annuelles. C'est sur des programmations annuelles. Et quand il survient un cas comme celui dont nous parlons au niveau du port, là, c'est la direction des TP qui doit diligenter des travaux, ils appellent ça quoi, travaux d'urgence, pour que la situation soit réglée. Donc, ce que nos confrères ont énuméré, c'est le cas de Lomé. Le cas de Lomé. Et dans tous les pays, quand une route est construite, elle doit subir des dégradations à un moment donné. Et c'est pour cela, justement, que les journalistes et tous les acteurs qui s'intéressent aux travaux liés à la route sensibilisent les transporteurs, surtout les gros porteurs, à éviter les surcharges qui dégradent prématurément les infrastructures routières. Lorsqu'on construit une route censée faire 20 ans, 25 ans, 30 ans, et la charge normale n'est pas respectée, vous allez voir que cette route ne pourra même pas faire 5 ans. Et on va commencer par crier sur le prestataire, l'entreprise qui a construit cette route. Mais ce n'est pas cela. Il faut qu'on contribue ensemble à faire comprendre aux transporteurs et d'ailleurs ceux qui gèrent même les postes de pesage à être plus rigoureux, à sanctionner plus sévèrement ceux qui font de la surcharge pour éviter la dégradation de nos routes. C'est très important.
Jacques, c'est vrai, quand on prend ces routes, Uriel l'a dit maintenant, que souvent, c'est des routes qui sont appelées à être dégradées à une période donnée, bien évidemment. Mais quand ces périodes, peut-être, ne sont pas atteintes, c'est-à-dire 20 ans, 25 ans, et que peut-être on retrouve ces routes dans un état alors de dégradation assez déjà à partir de 5 ans, allez, ça doit être...
Je voudrais, Pascal, si vous permettez, féliciter les Z-Man d'Alenka. Samedi, j'ai vu une scène qui m'a beaucoup touché et m'a beaucoup marqué. Vous savez que ce que les Z-Man là ont fait?
Non.
Ils ont cotisé l'argent. Et ils sont allés louer les motopompes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la route d'Alenka, Uriel.
Voilà.
Si vous voyez cette route-là, mais il faut avoir le courage de pouvoir traverser cette voie. Mais les Z-Man là, ils se sont entendus. C'est-à-dire qu'ils ont cotisé chacun. Ils sont allés louer les motopompes. Et ces motopompes ont dû pomper l'eau qui était sur la voie-là. Et quand vous allez là-bas, vous aurez maintenant le courage de pouvoir traverser cette route-là. C'est-à-dire que c'est la route-là qui mène vers, comment on appelle, l'hôpital qu'on est en train de construire actuellement. Voilà. Et ça, c'est les Z-Man qui ont fait ça. C'est eux-mêmes qui ont cotisé l'argent. C'est
pas... Mère et enfant.
Voilà, c'est les Z-Man qui ont fait ça. Donc, je tenais sincèrement à les féliciter parce que j'étais allé là-bas personnellement pour leur dire vraiment félicitations. Si chaque Togolais pouvait comprendre que, avant que l'État ne vienne en aide des populations, si chacun pouvait faire ce que les Z-Man l'ont fait au niveau d'Alenka, je crois que c'est une bonne chose. Et c'est à l'État maintenant de prendre prendre le relais. Parce que quand vous prenez par exemple la voie d'Alenka là, il faut quand même verser ne serait-ce que quelques bitumes pour permettre effectivement à nos compatriotes. C'est comme Alenka, c'est comme un quartier oublié. Oui, je vous dis, je ne sais pas quel est ce maire là qui est là-bas et qu'est-ce qu'il fait. Et comment il fait pour traverser tout le temps dans cette voie-là, pour aller vers sa mairie? Mais c'est terrible, surtout ce qui se passe à Alenka. Revenons par aux routes dont vous venez tout à l'heure d'énumérer, mais j'étais choqué de voir ce tour-là au niveau effectivement du port autonome de Lomé. Elle dit que vous savez que c'est la nationale numéro 1 ou bien numéro 2. C'est numéro une route internationale qui relie le Bénin, le Ghana et beaucoup de pays. Et quand un trou comme ça, on peut se retrouver ce trou-là au niveau effectivement d'une route, mais il y a un problème. Moi, je voudrais sincèrement inviter la ministre des Travaux publics à faire l'audit de toutes les routes au Togo, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème effectivement au niveau de nos routes. C'est pas seulement la route-là. Samedi, si vous avez passé vers, vous prenez par exemple le boulevard du 13 janvier en allant vers Lomé 2, passant par 3K et autres, vous allez remarquer que il y avait également un colmatage effectivement de cette route-là également. Mais il y a quoi? Quel est le problème au niveau de nous dans notre pays? Il y a un seul problème. Il faudrait vraiment que le ministère des Travaux publics, il faut faire un travail vraiment énorme. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout au niveau de nos routes. Quand vous prenez par exemple les voies secondaires dans notre pays, mais ça c'est la croix et la bannière. Je vous dis, la nuit du samedi, j'étais sorti vers presque 22 heures pour chercher une pharmacie de garde. Je vous dis, j'ai pris une voie pour aller chercher le médicament. J'étais obligé de garer, marcher, marcher à pied. Parce que c'est impossible. Tu ne peux pas. Et je me dis, supposons que s'il y a par exemple un malade qu'on doit transporter dans un taxi ou bien sur une moto pour l'amener à l'hôpital, mais la personne dit de décéder. Parce que les routes sont impraticables. J'invite effectivement, sincèrement, le ministère des Travaux publics et le président de la République. Parce que dans ces 20 plus, quand vous les lisez, il y a également l'affaire effectivement des routes. Il faudrait que l'État puisse se pencher sérieusement sur les routes secondaires. Moi, je l'ai toujours dit. Si l'État togolais peut, ils peuvent le faire. Ne serait-ce que bitumer ou paver une seule voie secondaire dans notre pays et dans la capitale, une seule par an, je vous dis que on n'aura pas de problème. On n'aura pas du tout de problème. Non, je crois que avec ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que, si on peut même parler des états généraux des routes au Togo, il faut le faire. Si on peut organiser les états généraux des routes dans notre pays pour voir ce qu'il faut faire pour aider nos populations à rentrer à la maison, saine et sauf, je crois que ça serait une bonne chose.
D'accord. Uriel, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, oui, vraiment ajouter quelque chose. Je pense que le problème lié aux routes, surtout parlant des états généraux au Togo, nous avons des directions régionales des travaux publics, DRTP. Au Togo, chaque région a sa direction. Dans chaque région, vous allez trouver. Dans les savanes, la directrice régionale est basée à Mango. Vous allez retrouver à Kara, à Sokodé, ils sont là. Vous allez descendre à Tapamé, ainsi qu'à Lomé aussi. Ce sont ces directeurs régionaux des travaux publics qui font à chaque année la situation et établissent et planifient l'entretien ou la construction des routes. Peut-être qu'il va falloir rassembler ces planifications, ces situations-là pour en faire un état général et présenter à la population. Sinon, le travail est tellement fait en profondeur que, moi, je me dis peut-être c'est l'orientation de l'investissement qui manque. Peut-être qu'on ne concentre pas l'investissement sur la construction et l'entretien des routes qu'on a de ces routes aujourd'hui dont nous nous plaignons. Pour finir, vous savez, au moment où il faut bitumer un petit tronçon à Lomé, on a besoin juste de ce montant-là pour ouvrir une piste d'accès dans la région des savanes, de la Cara, dans les plateaux ou partout. Parce que Lomé, la piste sur laquelle nous nous plaignons ici, si mes parents reçoivent cette piste-là à Boufalé, c'est de l'or pour eux. Donc, je me dis que peut-être le gouvernement va privilégier l'ouverture de cette piste-là pour que mes parents ne transportent pas les cannes à sucre, les ignames et tout sur la tête pour amener à Madiatom, que de venir bitumer une piste qui existe déjà. Mais je reste dans la logique de Jacques pour encourager les décideurs à mieux investir dans la construction, dans l'entretien des routes. Parce que une mauvaise route, ça entraîne les maladies.
Oui, tout à fait. Alors, disiez, quand on prend même ces routes qui peut-être sont dégradées avant même le temps prévu, finalement, est-ce qu'il ne manque pas aussi de suivi autour alors du bitumage, même d'ailleurs de ces routes?
D'abord, je comprends l'analyse et l'orientation de Uriel. pour dire que il y a des besoins plus importants à l'intérieur quand on parle en termes de route qu'à Lomé. Mais je pense que même chez moi, pour rentrer chez moi à Couvé...
À l'intérieur aussi, c'est ça.
Oui, pour rentrer chez moi à Couvé, après à Épé, c'est le calvaire pour aller chez moi à Couvé. Et tout le monde connaît cette route-là, c'est devenu une route légendaire.
5 à 6 kilomètres.
Oui, 5 à 6 kilomètres, mais de calvaire. Hein. Mais donc, du coup, tout le monde connaît maintenant. Mais ça ne dédouane pas le fait que les routes, le fait qu'on voit les situations des routes, au moins qu'on a bitumé à coût de milliards et qui se dégradent en un rien de temps, ça ne dédouane pas les autorités. Je pense que c'est des signaux et des éléments qui doivent permettre prochainement à nos autorités, aux techniciens des travaux publics, tels que tu le dis, d'être encore plus regardants lors des prochains travaux qu'on confiera à des entreprises. Ce qui s'est passé au niveau de Sim Togo, on aurait pu perdre des vies là-bas. Même la route qu'Index Liberté, par exemple, si vous prenez après Toglekope, je crois, après le fleuve Zio, vous êtes dans la descente vers Adetikope, vous voyez l'ondulation que ça fait là-bas. Et ça peut être source des accidents pas possibles à tout moment et on va perdre des vies. Et donc, si on continue comme ça, on construit des routes à coût de milliards, et que après un an, après deux ans, il faut aller retourner de l'argent là-bas pour aller reprendre, je pense que c'est un peu comme un travail de Sisyphe. C'est un peu comme un travail de Sisyphe, et si on continue dans le travail de Sisyphe, le Togo ne va jamais se développer. Si on continue comme ça, avec les routes, avec les écoles, avec la santé, dans tous les secteurs, le Togo n'ira jamais de l'avant. Et peut-être on finira jamais avec ces routes-là pour aller, justement, aller mettre les pistes rurales à Boufalé, par exemple, chez mon ami, et aller un peu vers moi, vers Yotokope et tout ça, pour mettre des pistes rurales dignes de ce nom, pour permettre aux populations et aux agriculteurs, producteurs, de convoyer leurs produits vers les centres-villes ou pour la vente. Et donc, je pense fondamentalement que tout est un problème de contrôle. Et je ne sais pas quels sont les cabinets de contrôle qui sont généralement recrutés pour suivre ces travaux-là lors des travaux de bitumage de ces routes-là. Et je pense que, à mon avis, quand ces difficultés arrivent comme ça, il faut convoquer les cabinets de contrôle pour leur demander comment est-ce que vous avez eu à contrôler les travaux pour que après tel nombre d'années, on arrive à des situations compliquées comme ça, où on est obligé des fois de bloquer la voie, où on est obligé des fois encore de décaisser de l'argent pour reprendre un certain nombre de travaux. Donc ça là, au moins, on a besoin de ces explications de la part des cabinets de contrôle, et je pense que c'est du domaine du ministère des Travaux publics de faire cela. Sinon, comme je le dis, on ne va jamais finir de faire quoi que ce soit, encore que la construction d'un pays, c'est un travail de longue haleine, ça va être sur de nombreuses années, mais si on doit chaque fois retourner en arrière pour reprendre ce qu'on a déjà fait, je ne sais pas ce qu'on peut faire dans l'avenir.
Alors, nous allons quitter cette question.
Non, je voulais, vous savez,
oui, Jacques, rapidement.
Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quand on ne construit pas des routes, on construit des routes, par exemple. Regardez les caniveaux, par exemple. Mais on construit une route, on ne construit pas également les caniveaux. Mais comment la route peut résister? Mais c'est pas possible.
Le
il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Vous construisez, vous dépensez de l'argent pour faire des routes. Il n'y a pas de canalisation. Qu'est-ce que vous voulez? Mais les routes vont se dégrader. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Quand vous prenez, tout récemment, je suis allé vers le nord. Prenez le nouveau contournement au niveau de... Je crois que c'est défalé, non? Pour Mais quand vous voyez déjà cette route-là, mais vous
c'est
avez...
Défalé,
vous avez mal au cœur.
Oui,
vous avez mal au cœur. Vous dites, mais comment l'État débourse des milliards, des milliards pour une route qui ne dure même pas 5 ans? Mais c'est pas possible. La voie, par exemple, au niveau du Simao Togo, là.
Oui.
Mais ça fait combien de temps qu'on a construit cette voie? Et regardez le trou des gars qu'on a retrouvé là-bas. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui, Je suis d'accord avec Didier quand il dit non, qu'il faut le bureau de contrôle. Une chose est de laisser la latitude à ces gens de faire le contrôle. Et quand ils font par exemple les contrôles, quand ils présentent le rapport, une chose est peut-être de frapper par rapport, peut-être s'il y a des dysfonctionnements au niveau de ce qu'ils ont dit. Et comment même l'appel d'offres se fait par rapport à la construction de ces routes-là. Voilà un autre problème également. Moi, je crois que
vous êtes allé trop loin même. Parlant des bureaux de contrôle.
Le contrôle.
Il faut chercher à voir quelle relation existe entre l'entreprise et prestataire et le bureau de contrôle.
Si
Pascal est l'entreprise, moi je suis bureau de contrôle, je pense qu'on peut
faire la complicité est bien établie.
C'est facile.
Hein, nous allons rapidement quitter nos routes ou ce sujet alors des routes pour se transporter à l'Assemblée nationale. Vous avez tous ensemble l'information que depuis le vendredi, il y a l'Assemblée nationale qui a ratifié la liste alors des membres pour une commission spéciale d'enquête alors pour sur le rapport d'audit de la gestion des fonds de COVID-19. Il y a la rédaction de Canal FM qui a participé aux travaux, du moins ça a assisté à tout. Il y a un élément que je vous propose alors de suivre et nous revenons juste après.
Tous ceux qui sont pour, contre, abstention.
C'est par ce geste que les députés à l'unanimité ont dit oui à une commission spéciale d'enquête sur la gestion des fonds de COVID-19. Moment solennel, il intervient quelques mois après la publication d'un rapport de la Cour des comptes sur la question, lequel rapport révèle plusieurs irrégularités. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, cette commission spéciale mérite d'être mise en place pour des raisons justifiées. Yawa Digbori Tiegan.
Dès lors que l'affaire soulevée par le rapport de la Cour des comptes dépasse les seules compétences de la Commission des finances et du développement économique, il est préférable de constituer une commission spéciale avant la désignation de la mission.
La mise en place de cette commission spéciale parlementaire s'explique par les articles 35, 36 et 46 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale peut constituer en son sein des commissions spéciales.
Kossi Donko, le premier secrétaire général de l'Assemblée nationale, a rappelé cette disposition.
1. Acholi Aklesso. 2. Agbanou Komi. 3. Tama Komadega.
De son côté, la deuxième secrétaire générale de l'institution, Rita Leonadina de Souza, a dévoilé les 27 membres qui composent cette commission spéciale.
Y a-t-il des observations, s'il vous plaît?
Madame la Présidente, il n'y aura pas d'observations puisque les sensibilités politiques présentes à l'Assemblée nationale y sont toutes représentées et les travaux en commission ont éclairé les députés sur le sujet. La commission mise en place a une mission spécifique qui lui est assignée.
La commission spéciale dont la liste vous a été présentée sera chargée de désigner une mission d'information ou d'enquête en vue d'auditionner toutes les personnes qu'elle jugera utile d'entendre, particulièrement celles ayant eu des responsabilités dans la gestion de la COVID-19 en lien avec le rapport d'audit de la Cour des comptes.
Les travaux de cette commission vont durer 45 jours et à terme, un rapport sera déposé sur la table de la présidente de l'Assemblée nationale.
Voilà le reportage alors sur le sujet, reportage alors de la rédaction de Radio Canal FM bien évidemment. Et Liberté qui titre sur le sujet aujourd'hui, gestion scandaleuse des fonds Covid-19. Après avoir applaudi et félicité le gouvernement, les députés ouvrent une enquête parlementaire. Didier, on prend ce sujet, cette commission spéciale d'enquête qui est créée, qui est mise en place, c'est une première et on doit s'en féliciter.
C'est une première et à vrai dire, on aurait pu, comme on dit, on s'attendait à cela depuis très longtemps et on aurait pu l'avoir dès le début de cette affaire et à chaud. Et vous savez que le rapport produit par la Cour des comptes avait fait couler assez d'encre et de salive et avait provoqué assez d'indignation au niveau des populations togolaises et on a été un peu refroidi dans les ardeurs quand justement le gouvernement était passé à l'Assemblée nationale et qu'à l'époque on nous avait fait croire que tout semblait être bon dans le rapport et qu'il n'y avait plus de débat. Mais nous sommes heureux de constater que les députés, je ne sais pas, après moult réflexions et après des travaux, sont revenus sur l'affaire et mettent en place maintenant une commission d'enquête parlementaire pour aller au fond du dossier, connaître véritablement les détails de ce rapport-là, savoir ce qui s'est réellement passé, surtout que beaucoup de lignes et beaucoup de pages de ce rapport-là mettent à évidence un certain nombre d'irrégularités et d'insuffisances, pour reprendre le terme même du gouvernement à l'époque, le terme d'un communiqué du gouvernement à l'époque, beaucoup des insuffisances à l'époque. Et nous sommes tout heureux aujourd'hui de constater que l'Assemblée nationale va à peu près dans le sens de ce qu'ont demandé la plupart des Togolais à l'époque, et que cette commission est maintenant en place, composée de toutes les sensibilités politiques représentées à l'Assemblée nationale, et que cette commission dispose d'une durée de 45 jours
tout à fait.
Parfois, pour creuser dans ce rapport-là et nous sortir une conclusion. Je pense que on n'est pas au bout des surprises avec cette histoire de rapport de la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds, le fonds de solidarité de Covid-19. Et donc, je voudrais dire peut-être que c'est le début d'un nouveau feuilleton, et qu'on on verra dans les jours à venir les autres éléments qui seront mis à la disposition du public. Et on suivra de près ce qui va se passer.
On suivra de près ce qui va se passer. Jacques, on dirait quand même que mieux vaut tard que jamais par rapport à la mise en place alors de cette commission.
Non, la question qu'il faut se poser, pourquoi c'est maintenant? C'est la question. Pourquoi c'est maintenant conforme? Parce que ce que nous savons, les députés actuels qui sont à l'Assemblée nationale, leur mandature prend fin en décembre, je crois.
Tout à fait.
Voilà. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut mettre sur pied cette commission? Et qu'est-ce qui se cache derrière la mise sur pied de cette commission? Et quelle est la finalité de l'enquête que les députés là vont produire? Et qu'est-ce qu'on veut en faire avec par exemple, l'audition de ceux qui sont concernés? Donc, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'ombre par rapport à la formation de cette commission. Bon, certains diront que le plat de la vengeance ne se mange pas à chaud. Bon, si peut-être que les gens, entre-temps, les populations avaient tellement tambouriné sur ce rapport, donc les gens se sont dit, bon, attendons que les ardeurs se calment et que, à tête reposée, on puisse écouter peut-être les acteurs impliqués dans cette affaire. Bon, si c'est dans ce cas, bon, bonne chose. Ce que nous savons, c'est que vous savez, même si on écoute les acteurs impliqués dans cette affaire, déjà, on a vu que la commission qui a travaillé, qui a produit par exemple ce rapport, on a vu ce qui s'est passé. Tout est dedans. Donc je ne sais pas pourquoi vouloir encore interroger les acteurs là au niveau d'une commission de l'Assemblée nationale, parce que vous vous rappelez que les ministres, le gouvernement était à l'Assemblée nationale et on les avait interrogés, et l'Assemblée nationale avait dit non, que c'est bon, il n'y a pas de souci.
Je pense que c'est de ça que Liberté parlait même d'ailleurs.
Voilà, ils ont dit qu'il n'y a pas de souci. C'est pourquoi j'ai dit, il y a quelque chose qui se cache derrière cette affaire, et les jours à venir vont nous révéler effectivement ce qui se cache derrière le fait de composer cette commission et de pouvoir effectivement écouter les uns et les autres. Parce que ce qui me fait dire, d'ailleurs, ce léger remaniement dont on a assisté, ça cache également beaucoup de choses. Et le fait de vouloir encore qu'on interroge certains au niveau de l'Assemblée nationale cache également quelque chose. Donc, ce que j'ai dit, croisons les doigts, et demain nous allons nous situer par rapport à tout ce que nous sommes en train d'assister.
Éliel, à la question de Jacques, pourquoi c'est maintenant? D'aucuns diront aussi que, mais pourquoi ça ne doit pas être maintenant?
À la question de Jacques et à l'analyse de Didier, je trouve que c'est un sujet intéressant. C'est un rebondissement très intéressant. Mais je me pose aussi les mêmes questions que le grand frère Jacques. Pourquoi c'est maintenant? Vous savez, je me souviens de la présence de certains membres des émissaires du gouvernement à l'Assemblée nationale qui ont démontré la qualité du travail abattu par la commission qui était chargée de gérer la COVID-19. Et il y a le ministre Christian Trémois qui avait taxé même la Cour des comptes de n'avoir pas été professionnel et qu'il faut amener plusieurs institutions au professionnalisme, vous vous souvenez. Donc, si après tout ça, après avoir validé la qualité, après avoir donné du crédit au travail effectué par toute cette commission lors de la menace de la COVID et créer des doutes sur le travail effectué par la Cour des comptes, si aujourd'hui on revient encore, et nous avons vraiment raison de nous poser plusieurs questions. Et la question ultime que moi je me pose, est-ce que toute cette liste, ces membres qui sont chargés d'enquêter et de revenir rendre compte à l'Assemblée nationale, iront-ils d'abord à l'école de l'enquête avant de faire leur travail? Est-ce qu'ils sont nantis des connaissances nécessaires? Je ne doute pas sur ce qu'ils savent faire. Mais est-ce que c'est de leur prérogative? Maintenant, nous avons la Haute Autorité de prévention de lutte contre les infractions assimilées à la APLUSIA. Pourquoi ne pas doter cette institution de pouvoirs qu'il faut pour qu'elle fasse ce travail et revenir exposer devant l'Assemblée nationale? Nous avons le droit de nous poser des questions. Peut-être que ça permettra encore aux élus du peuple de revoir la copie. Ce sont des questions. On sait quand même qu'un travail serait fait avant cette session dernière à laquelle Canal FM a bel et bien participé. Certainement qu'un travail en profondeur a été fait, mais nous nous souvenons quand même de ce qui s'est passé lorsqu'on a rendu public le rapport. Nous tous on a lu le rapport et ce qui s'était passé, pas des affrontements mais des échanges entre l'Assemblée nationale, le gouvernement et la Cour des comptes, les journalistes, le peuple togolais, même la société civile. Tout ça, donc nous avons raison de nous poser des questions. Parce que nous sommes un pays, un État, et il se peut que nos partenaires aient besoin de la clarté dans cette affaire avant de continuer par nous financer. Donc, notre pays se verrait obligé de diligenter une enquête pareille pour se mettre sur les rails. Mais encore une fois encore, c'est le contribuable. C'est le contribuable. Et au regard de tout ce que nous avons subi lors de cette pandémie, il fallait quand même que les choses soient claires à ce niveau, parce que ces fonds-là pouvaient servir. Vous avez énuméré beaucoup de besoins tout à l'heure, les routes et tout ce qui va avec les fonds-là. Vraiment, s'il y a eu une mauvaise gestion comme ça, j'encourage cette enquête-là, parce qu'il y a de grosses institutions qui ont refusé de collaborer avec la Cour des comptes. Il y a des institutions très majeures qui ont refusé de collaborer avec la Cour des comptes.
Je pense que la Cour des comptes même a mentionné ça aussi dans le rapport.
Je pense que c'est le moment venu pour que ces institutions-là de la République puissent répondre maintenant et donner leur part de vérité. Les Togolais en ont besoin. Sinon, demain, lorsqu'il y aura une pandémie ou autre crise, nous ne sommes pas... On est vivants. Et tout peut arriver. Lorsqu'il y aura une autre crise, le chef de l'État et tous ceux qui l'entourent auront du mal à choisir les personnes de confiance pour leur confier cette tâche-là. C'est bien.
Didier, est-ce que vous croyez à l'indépendance ou à la qualité d'indépendance même d'ailleurs de cette commission?
Je crois d'ailleurs que mes deux amis se sont posé la question sur le timing. Pourquoi maintenant? Il y a quelques mois, le gouvernement semblait dire que rien ne s'est passé. À l'Assemblée nationale, c'était passé un peu comme une lettre à la poste et qu'on faisait croire à l'époque que c'était OK. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Là, cette question-là est fondamentale. Bon, on peut penser à beaucoup de choses. On peut soupçonner beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas à nous de dire des choses ici. Mais on se pose juste la question de dire si c'est maintenant que l'Assemblée nationale, ma foi, a été instruite de mettre en place une commission d'enquête, ça veut dire que c'est pour aboutir forcément à quelque chose. Donc, est-ce que moi je crois? C'est pas à moi de croire. C'est à eux de faire le travail pour lequel ils ont été élus d'abord et pour lequel ils ont été choisis dans cette commission d'enquête. Et donc, à partir de ce moment-là, on attend. Tous les Togolais ont maintenant les yeux rivés de nouveau sur l'Assemblée nationale pour dire que cette commission d'enquête-là a une lourde responsabilité de pouvoir éclaircir la lanterne des Togolais et dire véritablement ce qui s'est passé avec l'utilisation des fonds Covid. Même si on peut soupçonner beaucoup de choses derrière, au moins les Togolais ont droit à cette vérité. Il faut que cette vérité sorte aujourd'hui et que ça soit justement la vraie vérité, pour reprendre le terme de quelqu'un.
Pourquoi vous en doutez?
Ben, je ne veux pas jouer à l'oiseau de mauvaise augure, mais je veux que ça soit juste la vraie vérité qui sorte de cette enquête qu'on serve aux Togolais.
Jacques, vous avez parlé de la finalité même d'ailleurs de ces travaux, et c'est très important quand même qu'il y ait une finalité et que cette finalité arrive à convaincre tous les Togolais.
Bien sûr, au fait, le tournant même du rapport, c'est ça. Elle a dit comment faire pour convaincre aujourd'hui les Togolais, parce que on a vu ce qui s'est passé avec ce rapport. Vous vous rappelez même qu'il y a eu quelqu'un de la société civile qui avait saisi même la justice. Sur ce rapport, il a été débouté. Et aujourd'hui, le Parlement pense d'écouter également une fois encore les gens. Vous voyez que les Togolais sont sceptiques par rapport à cette commission. Mais aujourd'hui, il faut quand même donner du crédit à cette commission. J'ai vu un peu les noms de ceux qui composent cette commission. C'est des personnalités quand même qu'il faut faire confiance. Il est important aujourd'hui que ces personnalités-là jouent également leur crédibilité. Moi, je dis que c'est une patate chaude qu'on a filée entre les mains de cette commission, parce que les Togolais vont les attendre au tournant. Parce que déjà, leur nom circule sur les réseaux sociaux. Bon, on sait qui est dans cette commission. Et demain, s'il y a un problème, s'ils sortent et que les Togolais n'arrivent pas à avoir la clarté dans ce qui s'est passé, attendez-vous à ce que les gens puissent encore les accuser. Donc je crois que c'est vraiment un travail titanique qui se repose sur l'épaule de ces 27 personnalités qu'on a désignées pour écouter effectivement les gens. Une chose est de former la commission, une autre chose, parce que je ne sais pas si c'est Uriel ou disait qu'il le disait tout à l'heure, il y a certains qu'on avait, on se rappelle, qui ont été convoqués au cours de l'enquête préliminaire, qui n'ont pas daigné répondre. Vous comprenez? Les gens ont refusé. Mais certains l'ont fait. Certains sont allés en bonne foi, ils ont répondu aux questions, mais certains ne l'ont pas fait. Est-ce que maintenant cette commission-là aura effectivement la latitude de pouvoir convoquer, par exemple, ceux qui avaient refusé hier? Et l'autre aspect, quand on parle des pièces aujourd'hui, est-ce que ces pièces encore existent? C'est ça l'autre aspect, parce que ça a pris du temps. Est-ce que les gens n'ont pas eu le temps de pouvoir détruire les pièces à conviction par rapport à ce qu'on les accuse? Ouais, ça, y a encore
et cela
problème.
Donnera des difficultés, surtout à la commission.
Oui, à la commission. Donc, je crois que, vous savez, il faut reconnaître que on a pris un peu du retard au niveau, effectivement, de la composition de cette commission-là, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais, vaut mieux tard que jamais, la présidente de l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités de pouvoir écouter les gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire. Elle est aujourd'hui présidente là-bas parce que les Togolais veulent savoir ce qui s'est réellement passé. Ça aide de jouer effectivement sa crédibilité et les 27 qui composent également cette commission-là, de jouer leur également leur crédibilité. Et au finish, écoutez, si on reconnaît que certains ont gardé de l'argent vers eux, qu'ils restituent pour qu'on puisse. Vous savez, notre pays a beaucoup de problèmes. Les gens veulent de l'eau, les gens veulent les salles de classe, les gens veulent de l'engrais. Ouais. Donc je crois que si on arrivait à récupérer un peu, je crois que ça pourrait servir à ça.
Et
l'autre aspect, c'est les bailleurs de fonds, ceux qui ont mis leur argent. Uriel l'a dit tout à l'heure. Peut-être que certains sont sceptiques aujourd'hui à mettre encore de l'argent pour soutenir le Togo sur certains projets, parce que peut-être ils se disent: nous avons déjà injecté de l'argent, mais nous ne trouvons pas d'abord l'issue à ce que nous avons fait. Donc, le Togo est obligé de jouer sa crédibilité. Moi, je ne voudrais pas être M. Sani Yaya comme ministre des Finances au Togo, parce que je vois comment il souffre tous les jours. Il est obligé tout le temps de faire appel au niveau peut-être sur l'UMOA pour avoir de l'argent. Même le chef de l'État, Fonia Singbe, ils vont le mettre à sa place. Vous voyez que tous les jours, presque l'économie sur le plan mondial se resserre. Avec la guerre actuellement entre Israël et le Hamas, il paraît que le prix du baril a encore augmenté. Est-ce que nous tenons nos têtes ici? On ne sait pas si demain encore le carburant va encore augmenter. Donc, que la commission la joue sa crédibilité, sa partition, et que on puisse voir ce que ça va donner.
Jacques, vous avez évoqué le sujet. Nous allons partir, enfin quitter l'Assemblée nationale pour parler, hein, pour nous rendre maintenant en Proche-Orient, pour parler alors de ce conflit israélo-palestinien. Et le Hamas, on le sait, depuis le samedi, le Hamas a attaqué l'Israël et avec alors des missiles, hein, qui ont été lancés alors sur le pays, et le bilan fait état de plus de 1000 morts, dont 700 du côté alors de l'Israël et plus de 400 du côté de la Palestine. Aujourd'hui, il y a le service humanitaire des Nations Unies qui parle même d'ailleurs de 123 000 déplacés, hein, du côté surtout alors de l'Israël. Alors, quand on prend Uriel, quand on prend cette situation, alors on retrouve un conflit qui a tellement duré et qui refait encore surface.
Bon, c'est un peu compliqué, vous savez, c'est difficile de bien parler d'un pays qui n'est pas le nôtre, des conflits qui se déroulent dans des zones que nous ne maîtrisons pas. C'est pas aussi aisé parce que même à travers les informations que nous suivons sur certaines chaînes internationales, rien ne prouve que c'est fiable. Mais ce qu'il faut noter est qu'aujourd'hui, Israël, Palestine, nous sommes en Asie. Vous retournez en Europe, nous avons des guerres là-bas entre la Russie et l'Ukraine. Vous allez partout, il y a des crises. Bon, au total, à chaque pays de faire tout pour maintenir la paix. Pour maintenir la paix. Aujourd'hui, l'Israël, c'est la moitié du Togo. C'est un petit pays.
Un petit pays, oui.
La moitié de 56 600 km². Donc, vous imaginez un peu. C'est comme de Sokodé à montant vers Dapan. Quelque chose comme ça. Ici, aujourd'hui, on a déjà 1000 morts sur cette superficie-là. Il reste combien de personnes? Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce qui m'a surpris, c'est que presque toutes les grandes puissances ont invité Israël à répondre. Presque toutes ces grandes puissances.
Et même les États-Unis qui sont en route.
Oui,
sont en route pour venir au secours.
Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, outre le pape qui appelle à l'apaisement, les grandes puissances appellent Israël à répondre. L'Iran soutient la Palestine. Donc ça veut dire que si on ne fait pas attention, si ceux-là ne font pas attention, parce que c'est pas nous, hein, ça va se passer là-bas, ça va se limiter là-bas. Ils vont se tuer après, bon, ils vont trouver des solutions. C'est comme entre la Russie et l'Ukraine. Nous parlons ici, la crise nous a touchés, mais nous ne serons pas, nous on fera tout, nos pays feront tout pour maintenir la paix. Ils vont se tuer comme ça. C'est eux seuls qui connaissent les raisons, les soubassements de cette crise-là. Mais c'est un peu dangereux au regard des soutiens des grandes puissances. C'est un peu dangereux. Quand ça va commencer par lâcher, bon, il y a des Togolais en Israël. Hein?
Oui. Jacques, déjà quand on voit la situation, c'est la paix qui est menacée dans le Proche-Orient.
Je suis d'accord avec vous, Pascal. Vraiment, ce qui se passe entre l'Israël et puis le Hamas, il faut reconnaître que ce n'est pas quand même du tout bien pour la sérénité. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est comment le Hamas a pu se préparer. Israël, qu'on reconnaît comme une puissance comme les États-Unis, et que le Hamas puisse prendre 6 à 7 mois, préparer cette attaque, et que les services secrets israéliens ne soient pas au courant. De l'entrée massive du Hamas côté israélien. Je crois que vous l'avez si bien dit, la paix est une denrée rare. C'est une denrée rare. Si on peut vraiment préserver la paix, il faut le faire. Aujourd'hui, ce qui se passe, j'ai peur de la Palestine. Parce que vous avez vu le blocus actuel qui est au niveau effectivement de la Palestine. Et le ministre de la Défense israélien vient de déclarer qu'il n'y aura plus maintenant d'électricité et il n'y aura plus d'eau au niveau effectivement de la Palestine, au niveau de la bande de Gaza autant que
Gaza, oui.
Donc vous voyez que ce qui risque de se passer, ça serait une catastrophe humaine.
Pas de soucis,
donc sincèrement, invitons à la paix, à la sérénité entre les peuples, parce que la guerre, ce n'est pas une bonne chose.
La guerre n'est pas une bonne chose. Didier, quand on voit, tel que UL a dit, quand on voit surtout les grandes puissances qui s'invitent alors dans ce conflit, allez, ça dit quand même qu'il y a des intérêts en jeu.
Mais vous savez, ça a été toujours le cas. Ça a été toujours le cas. Le conflit israélo-palestinien, vous en avez entendu parler un peu dans l'histoire, dans les cours et tout. C'est un conflit qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date même des époques, certains vous diront même avant Jésus-Christ, mais qui continue. Et donc, où est-ce que le Hamas a pu trouver les moyens pour préparer cette attaque?
Donc on parle de l'Iran qui est derrière le Hamas.
Donc si l'Iran, si l'Iran soutient le Hamas, il n'y a pas que l'Iran, il doit avoir d'autres puissances également qui s'associent à l'Iran pour soutenir le Hamas. Et Israël n'est pas seul. Israël est soutenu au vu au sous de tout le monde par les États-Unis. Et quand on parle des États-Unis, vous voyez tous ceux qui s'alignent derrière les États-Unis également. Tout l'Occident également derrière. Donc vous voyez que les gens ont pris beaucoup de temps de parler de ce qui se passe en Ukraine, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais c'est ce qui va se passer au niveau de la bande de Gaza, là, entre Israël et la Palestine, ça va toucher encore plus le monde que ce qui se passe en Ukraine. Et donc je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, j'ai même lu que les États-Unis ne sont pas contents de ce que la Chine n'a pas condamné, que la Chine ait appelé Israël à ne pas réprimer. Et que vous savez que depuis cette attaque du Hamas, la descente là-bas de Israël sur la bande de Gaza est sans équivoque. Hein. Et ce qui se passe là-bas, on ne va peut-être pas vous donner le bilan, mais la réponse est énergique, on va dire, et propre peut-être que c'est pas conventionnel, mais pour reprendre le terme bien connu ici, mais c'est une réponse énergique de l'autre côté qui veut et tout ça. Donc vous voyez aujourd'hui que les États-Unis continuent de mobiliser ses alliés pour soutenir Israël et que les autres essaient également d'appuyer le Hamas et condamner ce que le Hamas a fait. Mais je pense qu'on aurait pu, tout comme on appelle à une solution au niveau de l'Ukraine, les grandes nations auraient pu régler cette question-là depuis au niveau de Israël, et aujourd'hui on n'aura plus de problème.
Merci cher confrère, je pense que déjà nos auditeurs nous ont écoutés pendant une heure de temps, 60 minutes. Nous allons maintenant leur donner aussi l'opportunité de s'exprimer sur les sujets dont nous avons débattu ici au Club de la Presse, mais bien avant nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et nous nous ouvrons maintenant à vous. Vous pouvez nous appeler sur le 22 21 33 74 91 36 63 75 pour réagir sur l'un ou l'autre sujet débattu ici au Club de la Presse. 22 21 33 74 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Alors, premier auditeur dans cette émission, allô?
Oui, alors bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Comment vous allez?
Ça va, c'est Évangéliste Senghor.
Voilà, vous savez tout le passé là.
Voilà.
Bon, je vais dire que monsieur Jacques a coupé, il doit être très important sur les quartiers oubliés. Il a parlé de l'Alenta. Mais hier, c'est ma première fois d'aller vers Agouet-Tombelin, quelque chose comme ça. Non. Je me suis posé la question de savoir si ça, là aussi, ça a nommé. Mais pas ça dans l'eau. Je vous dis que, il y a des bâtiments. Mais j'ai conçu des bâtiments, mais la vie ne pouvait pas. Ça veut dire que tout le quartier, hein? Non, ça veut dire que. C'est la faute au gouvernement ou bien c'est la faute à la population. Vous voyez. Donc, c'est un peu c'est vrai, on débloque des milliards pour pouvoir faire arranger les choses. Vous savez, le ministre, normalement, dans ce cas-là, le ministre des Travaux publics, on ne sait pas s'il est là ou pas. Il faut surtout vérifier les choses. C'est pas normal. Bon, deuxième cas, c'est vrai que j'étais à fin du cours. sur la partie de la cause de l'université, que M. Lahoussa n'est pas comparté, c'est vrai. Il est en train de discuter, de parler des Occidentaux, c'est tout la preuve. Bon, ok. L'autre troisième point, c'est pour le problème de l'Omé, qu'on a conçu avec 37 milliards, hein, avec 30 ans de la gestion. Mais est-ce que l'Omé n'est pas connu pour que l'intégrer plus le mot de clamer, LPT, notre troisième point, déjà au bout de 5 ans, ils ont déjà trouvé leur argent. Mais vous voyez, comment ils sont fait comme ça? Donc, c'est tout bien quand même, en tant que des journalistes, on est de tout là, vous ne pouvez pas du droit ce côté-là. Aujourd'hui, la France est directée partout, mais il faut que vous aussi, mais il faut que vous appuyez un mouvement. Même si pour moi, c'est un gros, je suis devant, pour vous retrouver ça.
Evangelis Senghor. Merci beaucoup. On a un peu du mal à l'écouter. 22 21 33 74. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien. Bonjour.
Bonjour, le nom c'est.
Bonjour à tes invités. C'est monsieur Maouto.
Maouto, vous nous appelez de quel quartier?
De Didjolé.
De Didjolé. Allez-y.
Je vais réagir par rapport sur le sujet de route. Un de votre confrère a dit là-bas, c'est monsieur Mireille. Il a dit qu'il n'est pas compétent pour parler sur le sujet des routes là. Moi, je suis un simple citoyen, mais je n'ai aucune compétence, mais je vais parler sur les routes sont mal faites au Togo. Si vous voyez tous les routes qui se font.
Oui, là, Uriel parlait des aspects techniques.
Même si c'est pas un technicien, je sais que les routes sont mal faites au Togo. Lorsque je sors mon argent pour payer quelque chose qui n'a pas duré, ça veut dire que la chose n'est pas bonne. Tous les routes sont mal faites au Togo. Depuis le président Faure au pouvoir, tous les routes qu'on fait, ce sont des chinoiseries. Moi, j'ai attendu la chance un peu de vécu la gouvernance de M. Le Feu Yadema. Il n'y en avait pas beaucoup, mais le peu qu'on considère, ça durait. À peine on fait une route maintenant au Togo, 2 à 3 ans, ça se dégrade. Ça veut dire qu'on gouverne mal ce pays. Et on le croit de dire, le président Faure gouverne mal le pays. Si vous arrivez au niveau de Atikoumou, le route de moi en train de faire là-bas, là. C'est pas encore libre, mais il y a de l'eau qui reste sur la route là-bas. Alors que l'eau ne reste pas sur la route. C'est pas bon. On dépend d'un milliard, c'est pas bon. C'est une belle émission.
Merci beaucoup, Maouto. 22 21 33 114. Allô?
Oui, bonjour, mon grand frère.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien chez vous.
Ça va aussi, le nom c'est...
Je me nomme Benoît, je vous appelle Dagoué.
Benoît Dagoué, allez-y Benoît.
Oui, Benoît Dagoué. Moi j'aimerais revendiquer aussi la commission, la comité...
Non, c'est la commission spéciale d'enquête.
Et vous savez, vous allez m'excuser, vous me faites rire. C'est que l'Assemblée nationale, vous avez dit commission spéciale. Qui sont les spécialistes là, là-bas?
Non, en matière de commission spéciale, c'est parce que ce n'est pas une commission directement de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a des commissions au sein de l'Assemblée nationale, mais c'est créé pour régler un problème donné.
La présidente de l'Assemblée a chanté la catena, comme chez les légionnaires dans l'Église catholique, que le chef de l'État, la vision du chef de l'État, maintenant il forme une commission pour enquêter. C'est pour changer les membres de la Cour des comptes ou bien quoi. Ils n'ont qu'à être directs.
En fait, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le dit. Ce n'est
ils
pas...
devaient le faire au début, à chaud, quand c'est avant d'appeler. Ils n'ont pas appelé même les membres de la Cour des comptes à venir à l'Assemblée et leur donner leur point de vue. Maintenant, après des mois, ils forment une commission. Pour me dire quoi, que les 15 millions sont devenus 1500 ou bien c'est 15 millions. Non, écoutez, nous avons d'autres choses. Voilà les infrastructures. Depuis vendredi, je vais acheter le courant pour mon cash power. La société me dit, on vient me dire qu'il y a un problème. Maintenant, je suis dans l'obscurité. Vous prenez l'argent pour former une commission spéciale. Bonne journée.
Bonne journée, on n'a pas besoin d'argent pour former une commission. 22 21 33 114. Bonjour. Allô, bonjour.
Bonjour.
Madame Messi, bonjour.
Et je ne vous ai pas suivi, mais je sais que vous avez parlé de tous les problèmes de la terre que le Togo a, quoi. Vous avez parlé de tout, l'électricité, l'eau, je sais pas, les routes inexistantes. Il n'y a rien, on n'a rien, on n'a rien. Et puis voilà. Et maintenant, je me demande là, on est dans une république ou quoi? On est dans une république qui est régie par des lois, non? Mais les gens gouvernent sans foi ni loi. Hein? Ils ne suivent aucune loi de la République. Sinon, ils ne seront pas là durant 60 ans, 12 mandats de 5 ans. Regardez dans l'état dans lequel on est, tous les Togolais. Dans l'état dans lequel on est, quoi. On se trouve. Est-ce que c'est normal? Personne ne porte plainte. Les gens n'ont qu'à se porter partie civile. Moi, je suis tombée dans un caniveau ouvert. Je porte toujours le corset. Ma voiture est cassée. Vous invitez la dame des TP, non? La dame des TP, là. Hein? On est dans une république où les gens doivent alterner périodiquement pour qu'on avance. Il faut vraiment. Bye, quoi.
Merci beaucoup, madame. Ici pour votre intervention. Allô?
Oui, allô. Oui,
bonjour.
Bonjour, Carole Levin.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Bien, je vous.
Oui, ça va aussi. Le nom, c'est?
C'est monsieur Wolu.
Monsieur?
Wolu.
Monsieur Wolu.
W-O-R-O-U.
Wolu, voilà.
Wolu, Wolu.
À Wolu.
Oui.
Voilà. Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Bé.
Bé, allez-y.
Eh bon, c'est concernant l'état de mon pays. Oui, sinon, la route numéro 2 du Togo. Depuis une semaine qu'on est en difficulté pour pouvoir circuler sur cette voie-là, venez tout de suite pour voir le rond-point. Comment on souffre pour pouvoir rouler sur cette voie?
Il y a un embouteillage, pas possible.
Il n'y a personne même sur la voie. On nous trompe que les techniciens sont là pour rétablir cette voie-là. Je viens de là tout de suite. Il n'y a personne là. Si réellement nos gouvernants prennent conscience sur eux qu'ils sont là pour gouverner une population, ils devraient être là. C'est seulement les agents de sécurité qui sont là avec des fusils à la main. C'est avec des fusils qui vont arranger le tout qui est là. Monsieur, c'est pitoyable pour nous au Togo de pouvoir vivre encore dans cet état-là. J'ai de l'âme sur mes yeux. Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Quels sont nous sommes jetés pour vivre comme ça dans ce pays? On a quoi?
Monsieur Ouro, merci beaucoup. 22 21 33 114. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Attends, JB, s'il vous plaît.
JB?
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
De aussi à Véganto, à Nagoto.
À Véganto, allez-y.
Je vous dis bonne émission alors.
Merci beaucoup.
Bon, je vous appelle. Le Togo a failli depuis 67. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Bon, ça fait des années que nous sommes en retard. Tout ce qui se passe maintenant au Togo ici, on ne comprend rien. Nous sommes là. On vous dit, vous êtes ministre. Sortez pour voir ce qui se passe dans le pays. Il ne faut pas rester en cavale comme ça. Non. Ce ne sont pas comme ça, on gouverne un pays. Tu vois les Anglais, eux, ils sortent. Ils sortent des fois pour voir ce qui se passe. Sortez. Jusqu'à 65 ans, nous sommes là comme ça, rien, ça ne va pas. Si on le dit, c'est-à-dire nous sommes déjà fatigués comme ça. Ou bien grand frère, voilà nos frères qui sont dans l'eau. L'autre là, circuler ses problèmes, sortir dans la maison, ses problèmes. C'est quoi? Avant TP là, TP, moi j'ai un grand frère qui a fait le TP. Chaque samedi, les petits bruits là, on prend des catapultes là, on les fait à leur manière. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Et nous sommes là à les apprécier que voilà. Je ne sais pas pour ces grands frères. Il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à nous voir, c'est quoi?
Vous le dites déjà. Merci beaucoup, JB. Alors, je pense que JB est notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi. Chers confrères, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur les sujets et vous avez écouté certains aussi avec toute émotion sur ce qui se passe alors dans le pays. Jacques, quelles sont vos réactions par rapport à cela?
Non, je crois que, vous savez, Canal FM, c'est une radio très écoutée et j'ose croire que ceux qui sont en train d'écouter cette radio, même si les autorités n'ont pas le temps d'écouter, on pourra leur faire le rapport après. Surtout la question des infrastructures dans notre pays. Il faudrait qu'on puisse revoir effectivement cette situation-là. C'est-à-dire que quand on nous dit souvent que la pluie, c'est une bénédiction, mais ce que nous constatons, quand il pleut, c'est la malédiction pour certains. Ouais. Donc il faudrait aujourd'hui que l'État puisse revoir cet aspect-là. Hein? Parce que les gens économisent leur argent, ils achètent par exemple des parcelles pour construire, mais après ils sont obligés de quitter. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais il faudrait que l'État donne ne serait-ce que le minimum pour aider nos populations. Vous voyez, c'est ça l'essentiel. Vous voyez, donc c'est-à-dire que on dit souvent que le développement d'un pays passe par le développement de la route. C'est ça. Si aujourd'hui on n'a pas les routes développées, attendez-vous à ce qu'on puisse avoir des problèmes pour se développer. Vous voyez, nos dirigeants font des efforts pour aider, mais il faudrait également qu'il y ait un suivi au niveau de ce qui se fait. S'il n'y a pas de suivi, mais attendez-vous. Vous voyez que depuis un certain temps, bon, au niveau du trou dont on a parlé, j'ai vu entre-temps le directeur de la police ou qui, et c'est fini. Vous voyez, on n'a plus vu quelqu'un d'autre. Ouais, donc, il faudrait que les populations sentent que nous avons des gens qui les aiment. Vous savez, Pascal,
oui.
Quelqu'un peut être dans une situation difficile. Même si tu n'as pas les moyens de l'aider, la façon de lui parler, le fait même de l'appeler pour lui parler, la personne est soulagée.
En fait,
c'est ce que les Togolais attendent.
Lisez.
Non, moi, je pense que les autorités ont dû, qui sont à l'écoute, justement, ou leurs services, ont pu écouter, ont pu saisir cette émotion-là dans la réaction que les Togolais ont eu à faire. C'est vrai que des fois, quand vous sortez, vous circulez un peu, que ce soit à Lomé, que ce soit à l'intérieur du pays, vous avez l'impression comme si rien n'est fait. Puisque beaucoup de choses restent à faire, qu'on se demande quand est-ce qu'on va véritablement commencer et finir quand. Donc je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire, nos autorités ont beaucoup de choses encore à faire, parce que le Togo est encore à construire. Et ça, cet appel-là, les autorités doivent l'écouter, saisir cette émotion des Togolais et essayer de donner plus, de multiplier encore plus d'efforts pour donner de l'espoir aux citoyens. Sinon, c'est tellement compliqué pour les Togolais de vivre. On peut parler de l'éducation, on peut parler de la santé, la route, là on en parle, la situation sociale en général. C'est vrai que des efforts sont faits, mais comme j'ai dit, quand vous sortez, c'est comme si rien n'est fait. Donc ça veut dire que beaucoup d'efforts restent encore à faire. Et je pense que si on veut enlever cette crainte, cette émotion dans la vie des Togolais, il y a encore beaucoup de choses que nos autorités doivent faire.
Uriel,
voilà, moi je vais dire quoi, remercier d'abord la vision de celui qui a décidé depuis un certain moment de placer les forces de l'ordre et de sécurité. Peut-être que c'est l'appellation, je vais parler soit les militaires, soit les gendarmes policiers, à la tête de certains services aujourd'hui. Ah, ça, je l'encourage, j'encourage vivement. Partout où on place un militaire, ça marche. Ça marche, non pas parce qu'il utilise la force, mais parce qu'il y a la discipline. Moi, j'encourage toujours cette autorité-là qui a pris cette mesure de continuer ainsi. Pourquoi la tête de certains services qui nous privent des fois du minimum, si cela vaut la peine que le chef de l'État, c'est son nom, qu'il prenne cette mesure-là de placer les policiers, les gendarmes, les militaires. Parce qu'on a vraiment de la discipline là-bas. Partout où tu as ces gens-là, il n'y a pas de ces actes-là, il n'y a pas de ces grabuges-là, on vit à l'aise, le service est rendu. Ça, je suis sûr là-dessus. J'encouragerai toujours les chefs de l'État. Partout, ça ne va pas, il n'a qu'à mettre un militaire.
Alors, nous restons avec vous pour le carton de fin d'émission.
Bon, je n'ai pas de carton, je salue tous les Togolais.
Jacques, carton de fin d'émission.
Nous souhaitons prendre guérison à tous ceux qui sont malades, qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont dans les hôpitaux, les cliniques, ceux qui traversent des moments difficiles. Et ma prière est que Dieu les vienne en aide.
Zé, carton de fin d'émission.
J'ai pas de carton, moi, je passe.
Merci à vous, chers confrères, d'être passés dans cette émission. Uriel, merci. Jacques, merci. Didier, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Michel Tomega, et qui a assuré la mise en onde. Géraud Akouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Mon confrère, Fousseni Saïbou vous retrouve déjà demain à partir de 11h pour un autre numéro de l'émission Club de la Presse.